Chapitre 34. Grande et fâcheuse aventure. Depuis longtemps, la terre altérée demandait au ciel de la pluie. Les habitants de la campagne faisaient des neuvaines et des processions pour obtenir la fin de la sécheresse. Une paroisse voisine revenait dans ce moment d'un ermitage où son curé l'avait conduite. La plupart des villageois étaient vêtus en pénitents blancs et portait sur un brancard la figure d'une vierge couverte d'habits de deuil. Don Quichotte, en voyant ses pénitents, cette vierge, cette grande troupe, s'imagina sur-le-champ que c'étaient des malandrins qui enlevaient une jeune princesse dont la délivrance lui était réservée. Aussitôt, et sans qu'on puisse l'arrêter, il court à Rocinante, prend son bouclier, son épée, monte sur son bon cheval et se rapprochant de la compagnie. « C'est aujourd'hui, s'écrie-t-il, que vous serez forcé d'avouer combien les chevaliers errants sont utiles dans le monde. Vous la voyez, cette infortunée, que des méchants entraînent captive, que deviendrait-elle, je vous le demande, si son bonheur ne m'eût conduite ici ?» À ces mots, il pique des deux, prend le galop, court au pénitent. Il arrive près de l'image et d'une voix de tonnerre. « Oh, vous, dit-il, qui sans doute pour de coupables motifs cachez vos figures sous ces linges blancs, rendez tout à l'heure la liberté à cette jeune et belle princesse dont les larmes, les tristes habits prouvent assez que vous osez lui faire une indigne violence. Sachez que je suis au monde pour empêcher, pour punir ces crimes, et je ne souffrirai point que vous vous avanciez un seul pas avant de voir libre cette prisonnière. » Un éclat de rire général fut la seule réponse qu'on fit à Don Quichotte. Plus irrité par ses ris, il s'avança l'épée à la main. Un de ceux qui portaient le brancard, laissant la charge à ses trois compagnons, vint, armé de sa grande fourche, se placer devant le héros. Don Quichotte coupe en deux la fourche. Le paysan, avec le morceau resté dans ses mains, frappe le chevalier sur l'épaule, et le coup fut si bien appliqué que notre héros tomba de cheval. Le vainqueur allait redoubler, quand Sancho arrive hors d'haleine, lui crie d'épargner son maître, en ajoutant que c'était un brave chevalier enchanté qui de sa vie n'avait fait de mal à personne. Le paysan s'aperçut que Don Quichotte ne remuait plus, et croyant l'avoir tué, se mit à fuir de toutes ses forces. Le curé, le chanoine, les archers accouraient. La procession ne douta point qu'on en voulût à son image, et les prêtres, les pénitents, s'arment de leur discipline, de leurs bâtons, de leurs chandeliers, pour repousser l'assaut qu'ils attendent. Heureusement, le curé de Don Quichotte connaissait le curé des pénitents. Ils se parlèrent, s'expliquèrent, et les deux armées en présence firent la paix avant le combat. Lorsque Don Quichotte eut recouvré la parole, il dit « Aide-moi, Sancho, aide-moi à me remettre sur le char enchanté. La douleur que je sens à l'épaule ne me permettrait pas de remonter sur le vigoureux Rocinante. « Oui, oui, monsieur, reprit Sancho, retournons à notre village. Nous laisserons passer cette mauvaise veine, et puis nous recommencerons plus heureusement. » Le chanoine et le curé vinrent aider à Sancho, prirent congé de la procession et firent rapporter Don Quichotte dans la charrette. On attela promptement les bœufs. On paya les archers qui s'en retournèrent. Le chanoine poursuivit sa route après avoir fait promettre au curé de lui écrire des nouvelles de la guérison de Don Quichotte. Celui-ci, couché sur du foin, demeura seul avec Sancho, le curé, maître Nicolas et le patient Rocinante, qui, témoin indifférent de tout ce qui se passait, ne perdit jamais un instant son inaltérable tranquillité. Le lendemain, au milieu du jour, on arriva dans le village de Don Quichotte. C'était un dimanche. Tous les paysans rassemblés sur la grande place environnèrent la charrette, reconnurent avec surprise leurs compatriotes et l'accompagnèrent jusqu'à sa maison où les petits garçons avaient déjà couru annoncer son arrivée. La gouvernante et la nièce se hâtèrent de sortir en voyant Don Quichotte pâle et tristement couché sur du foin, se mirent à jeter des cris perçants. La femme de Sancho Panza, du plus loin qu'elle aperçut son mari, vint à lui tout essoufflée en lui demandant si l'âne était en bonne santé. « Oui, oui, répondit l'écuyer, l'âne se porte mieux que son maître. « Dieu soit loué, reprit Thérèse. À présent, dis-moi, mon ami, si tu as fait de bonnes affaires, si ton écuyerie t'a beaucoup valu. « Patience, patience, ma femme, tu auras le temps d'admirer tout ce que je te rapporte. « Ah, mon pauvre ami, que j'en suis impatiente et que je t'ai regretté souvent depuis un siècle que tu m'as quitté. C'est bon, Thérèse, c'est bon. Je t'ai regretté aussi. Mais il faut bien travailler à sa petite fortune. Aussi, encore un voyage comme celui que je viens de faire, et tu peux être sûre de te voir comtesse ou gouverneuse de quelque île. Gouverneuse, mon ami, je ne sais pas que ce c'est, mais ça doit être bon.
Diable, si c'est bon, je le crois.
À la vérité, c'est cher. Avant d'être là, il faut recevoir une incroyable quantité de coups de bâton. Quelquefois même on est berné. À cela près, ma chère amie, c'est une très agréable chose que le métier d'écuyer errant, et je t'assure qu'il y a du plaisir à courir les aventures. » Pendant cette conversation, la gouvernante et la nièce avaient porté Don Quichotte dans sa chambre où elle l'avait mis au lit. Le curé leur recommanda d'en avoir le plus grand soin, surtout de veiller avec attention à ce qu'il ne s'en alla plus.